Bonjour, je m'appelle Alice Vaché et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir David Garbous, directeur marketing stratégique de Fleury Michon.
Bonjour. Bonjour.
Je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
Je suis ravie d'être ici.
Et comme on l'évoquait tous les deux, parce qu'on a pris un petit café avant quand même, on n'a pas à le papoter. Moi d'ailleurs plus jeune, je suis pas très vieille, mais je connaissais ce profil et cette personne inspirante, donc j'ai hâte qu'on échange toutes les deux, oh là là, je féminise la chose,
parler de cette personne. On a tous un côté masculin, un côté féminin.
Tu vas me faire part donc de ce côté féminin. Et donc j'ai envie de revenir d'abord sur toi, avant le côté directeur marketing Fleury Michon. Qui es-tu? D'où viens-tu? Ta scolarité? Est-ce que tu aimais le jambon ou pas? Ou est-ce que tu es végane et qu'en fait tu occupes ce poste? Dis-moi tout.
Écoute, Je suis tombé dans l'alimentaire assez tôt, en fait. J'ai fait une école de commerce.
Laquelle?
J'étais au Havre, à l'EM Normandie.
Ah, tu sais que j'ai failli la faire, cette école?
Excellent.
Mais je l'ai pas, en fait, juste pour la localisation. C'était sympa, mais c'était le jour où j'ai visité l'école, il pleuvait à torrents et...
Oui, c'est plus joli sous le soleil, effectivement.
Voilà.
Et en fait, en école, j'aimais beaucoup ce qu'on apprenait, mais jusqu'à assez tard, je savais pas trop... sur quelle matière m'orienter. Et j'ai choisi le marketing parce qu'un jour, il y a l'équipe Cœur de Lyon qui a débarqué dans un amphi, qui a raconté le lancement de cette nouvelle marque à l'époque, avec tout le positionnement, la communication qui avait été faite autour. Et ils étaient vraiment top. Et j'ai trouvé que ça avait l'air d'être un métier vraiment chouette. C'était beaucoup plus concret que ce qu'on avait appris à l'école, même si il y avait des choses qu'on avait apprises aussi. Et je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc j'avais commencé à avoir des contacts avec Danone puisque j'avais fait des stages de chef de secteur donc commercial chez Belin. Et en fait ma première expérience marketing ça a été pour la marque Kronenbourg. Je suis parti pendant 2 ans.
Amateur de bière?
Ben je l'étais peu à l'époque et je suis devenu pas mal effectivement. C'était un challenge intéressant parce que je suis parti pendant 2 ans pour le groupe pour vendre de la bière française aux Allemands en fait.
Ah.
Donc c'était facile. Et
plutôt commercial au début avant d'être marketing.
C'était au début commercial et puis cette mission, c'était une mission marketing et commerciale. Et donc la bière Kronenbourg a été lancée dans les années 70 en Allemagne dans un concept de gastronomie à la française et puis ça marchait pas très bien parce qu'il y a une très forte concurrence et puis les Français sont pas hyper reconnus pour la bière. Et en fait, on a eu l'opportunité de monter un partenariat avec Warsteiner qui est le leader allemand de la bière qui voulait s'implanter en France. Et nous, on lui a dit, tu vas nous aider à trouver une solution pour l'Allemagne. Il se trouve qu'il avait une bière cœur de marché qui marchait très bien, mais sur 40% du marché, il avait absolument pas d'offre. Et il se trouve que Kronenbourg, avec la Grimbergen, la Morsubit, la Wellscotch, avait énormément de choix au catalogue. Et donc, on a choisi de tuer la marque Kronenbourg. Donc, ma première expérience marketing a consisté à tuer la marque. Il faut savoir le faire. Et en revanche, effectivement, à développer tout un portefeuille de marques de spécialité qui ont extrêmement bien marché.
Et donc là, t'as commencé vraiment à prendre goût au marketing.
Exactement. Je me suis dit qu'il y avait vraiment, c'était extrêmement intéressant parce qu'on rentrait dans le cœur des attentes des consommateurs. À l'époque, j'avais pas encore pris conscience de la dimension sociétale. C'est venu quand je suis rentré chez Le Sieur.
C'était en quelle année environ, ça?
C'était, 98, Le Sieur. Et je suis rentré comme assistant chef de produit. J'ai fait tous les postes jusqu'à chef de groupe. Et puis, il y a un nouveau directeur général qui est arrivé et qui m'a dit, écoute, ton parcours est intéressant, mais si tu veux continuer d'évoluer dans le marketing, faut que tu touches à autre chose. Et il m'a proposé de refaire du commerce. Donc, j'étais compte-clé, donc, dans la négociation avec les enseignes de la grande distribution. Ensuite, j'étais directeur des ventes d'une activité qu'on a montée de zéro, sur la restauration et,
un des plus beaux. Tout ton parcours dans l'alimentation, dans l'alimentaire.
Oui, absolument. Hein. Voilà, dans la restauration, un des plus beaux succès, ça a été de convaincre l'enseigne Quick à l'époque de changer d'huile de friture. Ah. Ils utilisaient de l'huile de palme à l'époque.
Et donc, ils n'utilisent plus d'huile de palme.
Et on avait proposé une formule spéciale, donc sans huile de palme, avec un dispositif de récupération de cette huile pour en faire des biocarburants. Donc on avait monté tout un dispositif de vente. C'était en 2002.
Ouais, c'était, et c'était avant quand même ce boom
ouais, c'était,
de conscience c'est... pour la consommation responsable.
Hein. C'était avant tous ces sujets-là. Et voilà, on vendait un produit et le service avec. Donc ça aussi, c'est une vision du marketing que je trouve extrêmement intéressante, qu'on se concentre service. Pas uniquement sur l'offre. Et puis, dans ces années-là, le groupe a été racheté par Sophie Protéol, donc les coopératives agricoles françaises. Et d'un seul coup, on avait un accès à l'ensemble de la filière et en particulier aux agriculteurs qui font les produits. Et on avait toute une série d'huiles, dont fleur de colza, qui était...
J'aime bien ma huile de colza. Enfin, je préfère l'huile d'olive, je suis italienne, mais c'est ouais, pas mal l'huile de colza.
Il faut varier, ouais. Exactement, c'est comme il faut varier les huiles.
Nous, en plus, surtout que nous, en Toscane, on la goûte l'huile d'olive. On l'a fait déjà, ma famille l'a fait, et on la goûte. On déguste l'huile d'olive.
Ah oui, c'est une vraie profession. Oléologue, comme on a des œnologues.
Ah ouais?
Absolument. Ouais,
donc tu l'as été aussi dans tes 12 vies de...
Alors j'ai goûté, voilà. J'ai goûté beaucoup d'huile. C'est plus agréable de goûter l'huile d'olive que l'huile de colza,
ouais,
il faut dire.
Oui, je pense, ouais, c'est vrai.
Et donc, on a mis en place à ce moment-là, comme on avait cet accès qui était très privilégié aux agriculteurs, il se trouve que le colza c'est cultivé sur des champs qui font aussi du tournesol et c'est parmi les plus gros utilisateurs d'engrais, de pesticides, etc. Donc il y avait un enjeu, c'était en 2004, de travailler à la réduction
dans les
des
huiles,
pesticides.
Oui, c'est pour ça qu'il faut prendre soin des huiles bio, parce que même dans les huiles, il y a des pesticides, en fait.
Il y en a sur les graines, il peut y avoir des traces. Mmh. Après, sur les huiles qui sont vendues dans le commerce, elles sont raffinées, et
oui,
le raffinage enlève complètement la partie...
Donc les farines bio, pareil, quand elles sont raffinées, du coup... Il n'y a pas de pesticides.
Le raffinage a cette vertu.
D'accord,
alors,
donc
y a
finalement,
problèmes,
prendre
mais
une farine bio ou non bio, il n'y a pas trop de différence.
Bah sur un produit brut, plus il va être...
Oui, en fait, plus comme les fruits et légumes.
Exactement, voilà.
Non transparent.
Plus on est proche de...
Conseil,
exactement.
Très bien.
Et donc...
Je prends des notes en même temps, tu sais.
C'est très bien. ça avait été un beau succès, ce lancement. Ça représentait 8% du business de Le Sieur. Et on a décidé de changer le positionnement qui était beaucoup sur les oméga 3. C'est là-dessus que le colza a fait son succès, pour mettre en avant les agriculteurs qui faisaient le produit. Et ça a été un succès assez incroyable, parce que d'un seul coup, les gens... On commençait à parler des problématiques de pesticides, on commençait à parler des problématiques de revenus des agriculteurs. C'était 2004,
comme
c'était...
Patron.
Voilà, effectivement.
Non, mais du coup, parce qu'on l'a eu, c'est notre premier épisode avec Nicolas Chaban.
Ah bah super.
Donc ça me parle énormément.
Et on a fait 15% de croissance sur ce relancement. Et je me rappellerai toujours d'une discussion que j'avais eue avec le directeur commercial de l'époque, qui était un collègue. Et le marketing, c'est un métier fantastique, mais tout le monde a un peu un avis hein, sur les choses. Et il était très inquiet qu'on mette les agriculteurs sur les packs, parce qu'il trouvait que c'était un risque par rapport aux oméga 3 qui fonctionnaient très très bien. Et deux ans après, comme le produit avait été un très grand succès, c'est cette même personne au même comité de direction qui me disait « Pourquoi tu mets pas des agriculteurs sur le sort tournesol ?» Et ça, c'est un moment assez incroyable dans une entreprise, en fait, où finalement, il y a eu un succès suffisamment manifeste et clair pour donner à l'entreprise l'envie de vraiment basculer. Et quand je suis parti de chez Le Sieur, on avait décidé de basculer 90% des approvisionnements en agriculture raisonnée. Ce qui est colossal, en fait, à l'échelle d'un groupe comme Le Sieur. Mmh. Et moi, c'est ça qui me plaît en travaillant dans ces entreprises, c'est que on est sur des enjeux qui sont énormes et sur lesquels on est en responsabilité. C'est-à-dire que si on se place à 20 ans et qu'on change pas de manière très radicale le modèle alimentaire qu'on a collectivement construit depuis 50 ans, on sait qu'il n'y a pas besoin de refaire d'études, on sait que ça va mal finir, ça va mal se passer, et quand les hommes ont faim, il y a la guerre. C'est très... Il y a un vrai risque de survie de l'humanité, en fait, sur ce sujet. Et la nourriture, ça nous concerne tous les jours, entre 2 et 3 fois par jour.
Plus
donc on a une responsabilité là, si on change pas de manière très radicale le système, à 20 ans, on sait qu'avec 10 milliards d'habitants, ça marche pas. Donc, quand on a ce regard, et c'est pour ça que moi j'ai toujours été attiré par des boîtes familiales, parce que il y a cette notion de génération, le travail à une génération, eh ben, on doit prendre le sujet vraiment à bras le corps. Et donc j'avais fait ça chez Le Sieur. Ça m'a, J'ai été élu personnalité marketing de l'année.
Génial,
pour ça.
C'était en quelle année?
En 2012.
2012, super ça.
Et en fait, je me suis dit que bon, c'était chouette d'avoir une petite statue, mais ce que j'avais vécu chez Le Sueur, le fait de pouvoir finalement de l'intérieur trouver un modèle de croissance différent et en faire un modèle de référence, un nouveau modèle de référence, c'est quelque chose qui était qui me paraissait énorme. Alors, je suis très impliqué moi sur les sujets de la RSE depuis longtemps.
Et du coup, comment t'as rejoint Fleury Michon à ce moment-là? T'es passé de Le Sueur à Fleury Michon?
Exactement, ouais.
Parce que là, tu rentrais un peu dans la gueule du loup. Là, c'est toi qui portais ces sujets tu commençais notamment de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. T'arrives quand même sur du jambon, notamment. Hein. C'est quoi le plus gros produit? C'est le plus gros produit.
Le plus gros produit, c'est la charcuterie.
C'est la charcuterie,
60%
hein.
À peu près du chiffre d'affaires.
Et moi, d'ailleurs, je me renseignais sur Erta. Je suis tombée sur un reportage sur Erta qui disait qu'ils étaient en train de revoir complètement leur modèle en mettant que des protéines végétales. C'est quand même complètement fou. Et donc. Voilà, j'ai plein de questions à te poser sur Fleury Michon parce que forcément, et je trouve ça génial là quand tu me racontes ton parcours avec Le Sueur, tes engagements et tout, que tu sois arrivé du coup chez Fleury Michon.
J'ai décidé d'y aller sur un coup de cœur en fait. J'avais pas effectivement une image hyper claire de cette entreprise avant d'y aller. J'ai été chassé pour y aller et j'ai eu un coup de cœur dans la rencontre avec Régis Lebrun qui est le directeur général et Grégoire Gonnard, le président, parce que j'ai senti qu'il voulait vraiment faire bouger cette entreprise, la faire vraiment la projeter dans le 21e siècle. Ils avaient une détermination incroyable, mais ils savaient pas exactement comment s'y prendre.
En quelle année, excuse-moi, que tu les as rejoints?
C'était 2013.
2013, ouais. Oui. Donc en plus, t'avais des sortes tous les plats frais, les trucs comme ça, tout.
Exactement.
Ça. Ce positionnement. Donc je pense qu'en termes de marketing, ça devait être aussi éclatant à ce moment-là.
Mais c'était super. C'est le marché du frais, c'est un marché avec une très grande. D'abord, il y a beaucoup de concurrents, donc il y a une grande diversité d'offres. Il y a beaucoup de remises en question, et ça, c'est génial quand on fait du marketing. Et je suis arrivé 15 jours après, en fait, quasiment, c'était la crise du cheval dans les lasagnes. Donc je suis rentré assez vite dans les sujets par la cellule de crise. Et c'était passionnant parce que les gens, en fait, nous appelaient pour être rassurés.
Notamment Findus
avait été touché, oui. Ils voulaient savoir si nous aussi, on était concernés dans nos plats cuisinés.
Je pense que...
Donc quand on leur expliquait que c'était pas le cas parce qu'on faisait pas les achats spot que les autres avaient fait, etc., la question qu'ils nous posaient juste après, c'est « Mais au fait, qu'est-ce que vous mettez dans le surimi ?»
Ah oui, mais oui.
C'est une des activités...
C'est quand même pas incroyable pour...
C'est un produit qui est incroyable parce que en France, on est le deuxième pays au monde en consommation de surimi. Donc c'est un marché qui a explosé.
C'est quand même du sucre, des bouts de poisson, c'est quand même pas terrible, question nutrition.
Les gens sont convaincus que c'est fait avec des yeux de Bernard Lhermitte, des arêtes, et etc. Donc au moment où la crise du cheval arrive...
Des restes du frigo dans le surimi.
Au moment où cette crise arrive, ils nous posent bien sûr toutes les questions. Voilà. Et nous, on avait prévu, je me rappelle très bien, la business unit de surimi avait prévu de faire une campagne de publicité avec une belle famille dans une cuisine qui mangeait du surimi, et c'était très bon. Et je me suis dit que si on sortait cette campagne maintenant, ça allait vraiment pas marcher, ou pas bien se passer en tout cas, parce que ça correspondait plus, pas du tout aux attentes de l'époque. Et donc on a tout arrêté, et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut convaincre les gens que c'est bien fait, parce qu'il se trouve que Fleury Michon avait fait un travail incroyable sur la recette, en enlevant tous les additifs, tous les conservateurs, en allant s'approvisionner en pêche durable avec le label MSC.
Crabe après, plus cher, plus haut de gamme, des trucs comme ça.
Il y avait vraiment un travail de fond qui avait été fait, mais qui avait jamais été véritablement raconté. Et on s'est dit que, finalement, la meilleure façon de convaincre les gens, c'était pas de leur dire qu'on était les plus beaux et les plus forts, mais de leur proposer de venir voir par eux-mêmes.
Venez vérifier la campagne.
Et on a fait une campagne, on a dit aux gens, écoutez,
je me rappelle de cette campagne.
Ne nous croyez pas sur parole, venez voir par vous-même. On leur a proposé de remonter toute la chaîne, finalement, depuis leur supermarché où ils achètent la fameuse barquette de surimi, en passant par nos usines et en allant en Alaska, puisque c'est là que nous on achète le poisson.
J'en avais envoyé en Alaska?
On a envoyé des consommateurs, des blogueurs, des journalistes en Alaska, en Vendée, puisque c'est là qu'on fabrique les produits, et pour effectivement voir comment ça se passait et rendre compte. Et ça a eu, là aussi, un peu comme sur Fleur de Colza, un impact qui a été super, à la fois en interne, c'est intéressant parce que c'est une campagne qui était un peu surprenante. On voyait trois pêcheurs avec des têtes très
Je m'en rappelle très bien de cette campagne parce que j'étais dans l'agence de communication qui l'a traitée à l'époque. C'est dans mes débuts. Ben voilà. Et je m'en rappelle très bien. Moi, j'avais trouvé top pour le coup. En toute objectivité. Même si j'ai un peu travaillé dessus, mais.
C'est peut-être grâce à toi qu'elle a fonctionné.
Voilà. Moi aussi, je prends une petite statuette. Non, mais c'est vraiment, l'initiative était top. D'ailleurs, t'aurais dû rejoindre Nicolas Chaban dès le début. T'étais complètement sur ces sujets de consommateurs et de...
Non,
t'avais déjà tout compris, quoi.
On s'est beaucoup parlé, effectivement. Et on continue. Effectivement, ça, tout le monde a parlé de cette campagne parce que, à l'époque, l'industrie alimentaire ouvrait pas ses portes. Donc, très peu. Donc, les collaborateurs de Fleury Michon ont leurs amis, leurs familles qui leur ont dit, mais vous êtes fous de faire ça, ou c'est génial de faire ça. Ça a laissé personne indifférent. Et donc, d'un seul coup, en fait, tout le travail qui avait été fait par les collaborateurs s'est retrouvé valorisé par les gens à l'extérieur. Et ça a été une puissance, mais forcément extraordinaire. Et en plus, il se trouve que, d'un point de vue business, ça a aussi, on est passé de moins 5 à plus 12 sur le marché, avec des gains de part de marché incroyables.
Sur le surimi.
Et il y a plein de gens... Qui nous ont dit à l'issue de cette campagne, j'ai vraiment vérifié et je me suis mis à reconsommer du surimi. Nous, on l'a vu dans les chiffres.
C'est vrai qu'au goût, alors moi pourtant qui aime bien faire bien manger et tout, c'est vrai de mémoire qu'au goût c'est quand même plutôt sympathique. Bon, un peu caoutchouteux, mais plutôt sympathique le surimi.
Ouais, c'est ça. Mais c'est en fait
c'est le truc qu'on peut manger sur le
pouce. Recette de cuisine,
quoi.
C'est une pâte à crêpes, sauf qu'on remplace une partie de la farine par de la chair de poisson et après on le cuit à la vapeur. Donc c'est vraiment.
Donc il y a quand même du gluten quand même dans le surimi.
Ben parce qu'il y a de la farine.
Ah oui, mais il faut quand même le préciser pour ceux qui sont sans gluten et qui consomment du surimi.
Mais voilà, c'est une recette de cuisine en fait qui a été inventée par les Japonais, au même titre que nous, on a inventé le fromage ou le yaourt pour conserver le lait au XVIe siècle. En fait, les marins pêcheurs émiettaient le poisson, le mélangeaient avec du sucre ou avec du sel qui sont des conservateurs naturels. Et au Japon, ça s'appelle le kamaboko. Il y a à peu près autant de variétés de surimi au Japon que de fromage en France. C'est un truc
c'est
de fou.
Génial.
Il y en a des verts, des bleus, des salés, des sucrés.
Et en plus, c'est bien les couleurs, là. Il y a un truc un peu...
Et donc, dans les années 80, la quatrième génération, parce que Fleury Michon, c'est une entreprise familiale, la quatrième génération de Félix Fleury et Lucien Michon va là-bas au Japon, découvre ces recettes et trouve ça génial. Il trouve que c'est une façon hyper... pratique de manger du poisson, insouciante.
C'est vrai que c'est pratique.
Et donc, il y a une recette qui est ramenée en France, et c'est comme ça que ce lancement est fait. Mais on n'a jamais vraiment expliqué d'où ça vient. Si vous ouvrez un livre de cuisine, il n'y a pas la recette du surimi. Mm-hmm. Donc, forcément, ça a alimenté aussi toutes les légendes urbaines sur comment c'est fait, etc. Il y a...
Pas trop transparence, comme on ne veut pas dévoiler la recette.
Voilà. Mm. Et donc, le fait que cette campagne elle ait un succès à la fois... d'estime auprès des pairs de l'agroalimentaire et de business, ça a aussi donné, redonné quelque part une forme de fierté à l'entreprise et une énergie absolument incroyable pour
affronter les autres sujets,
tous les sujets des inquiétudes alimentaires parce qu'ils sont sur la table. Nous effectivement, on est à la fois sur des produits de charcuterie, des plats cuisinés ou du poisson. Donc à chaque fois qu'il y a un sujet alimentaire, on est concerné.
Et comment vous arrivez justement à faire face à tout ça? Vous devez avoir quand même tous les militants pour le bien-être animal, tous les véganes.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a d'ailleurs, vous proposez des plats bio, des plats véganes, des plats, etc., notamment.
On travaille sur
pareil,
tous ces
sujets-là. Décourage les gens de consommer des plats frais. Donc, récemment, d'ailleurs, je crois que c'était une vidéo du docteur Cohen, pour ne pas le citer, qui disait qu'en fait, faut juste regarder la composition et qu'en fait, c'est pas si horrible les plats frais maintenant, vu qu'ils ont été revus. Et c'est vrai que je regardais récemment dans un magasin bio et il y avait honnêtement, à part quelques correcteurs de machin, qui étaient rien.
C'est 10 fois plus crédible quand c'est Jean-Michel Cohen qui le dit que quand c'est moi.
Mais
c'est la réalité. Par exemple, quand Yuka est arrivé, l'application qui permet de scanner les produits, nous on était très contents parce que
En effet, il y a des A. Moi aussi, j'ai scanné avant de venir, j'ai scanné quelques plats Fleury Michon pour être sûr, pour voir si j'allais te dire. Et en fait, c'était A ou B sur certains. Donc je me suis dit bon bah.
Et 80% des produits sont comme ça, qui sont notés en
vert. De toute façon, vous essayez de revoir les recettes quand c'est D ou.
Nous, ça fait 20 ans qu'on a pris ce sujet-là. On a travaillé avec Joël Robuchon, Fleury Michon pendant 30 ans.
Je me rappelle puisque avec mon papa on mangeait des cassolettes.
Voilà. Qui lui nous avait dit il y a 30 ans, vous travaillez. En fait, il avait fait deux remarques. Il avait dit, quand il avait visité l'usine, les collaborateurs étaient hyper fiers. Et il avait dit, ça sent trop bon dans votre usine. Ça veut dire que les saveurs, elles se sont évaporées et que vous les avez pas suffisamment conservées dans les produits. Donc, on a développé des procédés de fabrication avec lui, inspirés de la cuisine des chefs, notamment la cuisson sous vide, pour conserver les notes aromatiques, les saveurs, etc. Il avait fait cette première remarque qui nous a énormément aidé.
Du coup, là, il y a le sujet du plastique.
On va y venir. Et deuxième remarque, il avait dit, vous mettez, il y a trop d'additifs ou il y a 30 ans de conservateurs et il faut enlever la boîte à pharmacie de l'usine. Et on a fait un travail de fond sur 30 ans avec lui, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur Yuka, 80% des recettes sont vertes. Donc c'est plus fort quand c'est Yuka qui le dit que c'est nous, et donc on était très contents que ça arrive. Et en fait, une fois qu'on a fait l'opération Venez Vérifier, on s'est dit, c'est super, ça veut dire que finalement, ce qu'on fait presque naturellement dans cette boîte, un peu comme Monsieur Jourdain, parce que l'état d'esprit familial fait qu'il y a un certain, il y a des conventions et il y a des façons de faire qui sont un peu transmises sans que ce soit comme une politique générale d'entreprise affichée sur tous les murs et tout ça. Donc il y avait ce truc qui était partagé entre les gens,
un ADN commun,
mais qui n'était pas verbalisé ou en tout cas qui était transmis sans être véritablement revendiqué. Donc on s'est dit, il faut qu'on puisse, au-delà de se dire qu'on fabrique de la charcuterie, des plaquignes et du surimi, il faudrait qu'on puisse définir...
C'est vrai que comme ça, réduit comme ça, on peut bien sur le
mais
précédent.
C'est ce qu'on fait plein de boîtes, en fait. La culture industrielle fait qu'on se définit souvent par les produits qu'on fabrique. En fait, on s'en fout.
C'est la culture d'entreprise qui est...
Essayer de comprendre ce qui nous relie, ce qui nous anime, ce qui fait qu'on se lève le matin. Et on a travaillé là-dessus, d'abord avec les équipes marketing, puis avec l'ensemble des équipes. Et on est arrivé à... C'était en 2014, à ce que tout le monde appelle aujourd'hui la raison d'être des entreprises. Nous, on a défini ça comme une mission. On s'est dit, notre sujet, ça doit être aider les hommes à manger mieux chaque jour. Donc on parle plus du tout de surimi, on parle plus de charcuterie, etc. Et on a fait en sorte de partager l'ambition de cette phrase avec tous les collaborateurs. Il y a plus de 500 idées qui sont remontées pour savoir comment est-ce que, quelle vision et quelle définition ils avaient chacun individuellement du manger mieux. Comment est-ce que ils voyaient
si... Je pense
que
tu devais avoir tellement de choses différentes. On a tous un avis sur... On a tous des intolérances. Moi, je suis sans gluten. Il y en a qui sont...
Il y a trois visions qui s'imbriquent assez bien entre elles et on va arriver sur la RSE tout en haut. En fait, la première catégorie de gens te dit manger mieux pour moi, c'est d'abord et avant tout me faire plus plaisir.
C'est vrai.
Parce que l'alimentation industrielle, parce que on prend plus de temps pour être ensemble à table, donc le plaisir. Ça arrive assez spontanément. Puis t'as une deuxième catégorie de gens qui te dit oui, le plaisir c'est super, mais si je mange du Nutella tous les jours, par exemple, il y a un moment je vais avoir un petit problème de santé, donc il faut que ce soit bon et bon, donc bon au goût et équilibré en termes nutritionnels. Ça, c'était à peu près le noyau dur des convictions de Fleury Michon quand on a lancé le projet. Et c'est à peu près les convictions françaises aussi. Mais il y a un troisième niveau de gens qui te disent, finalement, quand je choisis un produit alimentaire, je vote. C'est-à-dire que quand je choisis un produit bio, je prends soin de ma santé, mais je permets aussi de démocratiser ou de rendre possible le développement du bio. Quand je choisis un produit label rouge, c'est la même chose. Et finalement, à quelques centimètres dans un rayon, entre un produit A et un produit B, je peux changer le monde à mon échelle en tant que citoyen et faire en sorte que les choses évoluent de manière concrète. C'est beaucoup plus difficile pour un consommateur sur une voiture ou sur un appartement, etc., parce que c'est des achats d'abord moins fréquents et sur lesquels il y a une implication financière énorme. Sur la nourriture, c'est ça qui est incroyable et ça se répand de plus en plus. Les gens prennent conscience que finalement... Et c'est ce que dit Chaban aussi avec son lait, par exemple, c'est que avec quelques centimes, tu peux tout changer. Tu peux changer le revenu des éleveurs, tu peux changer les quantités de pesticides que tu mets.
Comme
le
consommateur est devenu acteur et qu'il se renseigne, il sait aussi que manger de la viande tous les jours, c'est pas obligatoire. Et vous, c'est quand même votre cœur de métier pour Fleury Michon.
C'est notre cœur de métier aujourd'hui, mais comme notre sujet, c'est le manger mieux. Peut-être que demain on vendra plus de viande et c'est pas grave.
D'accord.
On
donc
vendra,
finalement,
comme
ouais.
tu dis tout à l'heure, des plats cuisinés.
Et vous avez réussi et finalement à étoffer l'offre pour ne plus avoir uniquement du jambon.
À partir du moment où la mission et l'ambition qu'on donne à tous les collaborateurs, c'est d'inventer le manger mieux pour demain, et ben tout le monde se re-questionne et se re-challenge sur la façon d'y arriver. Donc effectivement, on a lancé des plats bio comme tu disais tout à l'heure, on a lancé des plats végétariens, on a développé énormément de pistes de travail pour proposer des alternatives. Alors ça nous a permis aussi quand même de prendre quelques positions un peu plus radicales, parce que quand on est une entreprise alimentaire historique, on va dire, il y a un principe de suspicion qui est fantastique et qui est qui marche à tous les coups. C'est-à-dire que dès que j'ouvre la bouche, on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, est-ce que je cache. Et en fait, c'est la succession des petits engagements qui fait que ça change. C'est, je prends souvent ce parallèle avec l'amour. En fait, ça n'existe pas dans l'absolu. Il y a que des preuves d'amour. Ben, sur la confiance, pour regagner la confiance des gens, il faut en permanence donner des éléments qui permettent de reconstruire la confiance. Donc, avec le manger mieux, nous on a pris des décisions parfois un peu surprenantes ou par rapport à notre secteur. Par exemple, quand le Nutri-Score est sorti, il y a très peu d'industriels qui ont décidé de l'adopter tout de suite. Nous, on a dit, dès qu'il est sorti, qu'on voulait le mettre, parce que même s'il n'était pas parfait, il y avait encore des choses à améliorer, ça nous semblait beaucoup plus important de le mettre et de l'améliorer une fois qu'il était en place, plutôt que d'attendre qu'il soit parfait. Il y a plein de groupes qui ont réagi en disant, il manque ça, ça et ça, et donc c'est pas européen, et donc on va pas le mettre tout de suite. Et ce qu'entendent les gens quand les marques disent ça, c'est, on veut pas être transparent, on veut pas vous montrer, on veut pas vous dire. Et ça, c'est terrifiant parce que ça alimente cette petite histoire ou cette petite antienne de ils sont pas dignes de confiance. Donc nous, on avait décidé d'y aller dès le début. Ensuite, on a décidé de mettre l'origine des viandes sur l'ensemble de nos produits avant que ce soit même testé par le gouvernement. On a décidé de quitter la fédération des charcutiers. C'est des petites choses, mais on avait une fédération qui était farouchement opposée au Nutri-Score parce que la majorité des charcuteries sont D ou E. Et on peut comprendre que ça les inquiète, mais encore une fois, le message que ça passe, c'est on veut absolument pas changer, on veut pas bouger. Donc on a décidé de partir. Ensuite, on a lancé des produits très très emblématiques de l'offre Manger Mieux, avec le jambon zéro nitrite, donc un jambon où on est allé vraiment au bout de l'exercice en enlevant absolument tout ce conservateur qu'est le nitrite, ce qui fait qu'il est gris, il se conserve 10 jours, et il a un goût différent. Donc on a...
Et il se vend bien?
Et il se vend très bien. Oui, oui. Alors, il y a des gens qui sont surpris par la couleur, mais on l'a expliqué pour expliquer que justement, cette couleur-là, c'est la couleur naturelle d'un rôti de porc qu'on vous le fait cuire, et que s'il est cette couleur-là, c'est parce qu'il n'y a pas les conservateurs.
Hein, quand on regarde les fruits bio, ils sont pas forcément plus jolis. Tu m'avais parlé un peu du plastique. On avait abordé, tu sais, le plastique pour...
Oui,
est-ce que en termes d'emballage, pareil, vous faites des efforts?
Oui, c'est un défi qui est, alors, énorme parce que on a toute notre offre historique, elle est en plastique.
C'est pour ça.
Et c'est assez symbolique ce sujet, parce que jusqu'à il y a 6 mois, le plastique, c'était encore fantastique. C'est-à-dire que c'était questionné par certaines personnes, mais c'était considéré comme apportant plus de bénéfices que de problèmes par la majorité des gens. Et puis, il y a eu ces images qui ont circulé sur les tortues qui s'étouffent avec des pailles, etc. Il y a eu une prise de conscience en France, mais planétaire, du fait que finalement, on était en train de s'empoisonner à petit feu. Et là, d'un seul coup, il y a eu un basculement d'opinion, mais qui est très radical, et qui est très violent pour nous, les industriels, parce que du jour au lendemain, on est passé on s'est retrouvé avec un problème sur les bras qui n'en était pas un la veille même. Et là, il y a une espèce d'impatience et
de pression du consommateur.
De pression qui est mise, qui est dure à subir, parce que c'est aussi une façon de se déculpabiliser que de dire qu'est-ce que vous faites vous les industriels, mais la veille c'est la même personne qui avait acheté le produit en plastique. Donc c'est vraiment des sujets passionnants parce que c'est
comment accompagner ces changements sociétaux finalement.
Elles sont permanentes, elles s'accélèrent de plus en plus sur le bien-être animal, t'en parlais, il y a plein de sujets. Donc le truc c'est que c'est pour ça que nous on a dit manger mieux, parce que le sujet c'est d'être sur la balle en permanence, d'améliorer les choses en permanence. On peut faire des reproches très importants aux entreprises si elles savent les choses et qu'elles ne bougent pas. À partir du moment où on sait et qu'on fait évoluer les choses, et ben on fait notre travail en fait. Là, on vient de lancer une nouvelle génération de plaques cuisinées en barquette de bois.
Oh, génial. Mais je n'ai même pas. Elles sont pas encore en rayon.
Elles sont arrivées là depuis quelques semaines.
Oui, ah oui, d'accord. Donc c'est tout récent.
C'est très récent, mais c'est une barquette qui permet de remplacer 80% du plastique d'un plat cuisiné, qui en plus, avec un passage au four, permet d'avoir, en termes de goût, quelque chose de bien meilleur.
Ah oui. Oui, c'est vrai que le plastique, finalement, c'est pas si neutre.
Ben
on s'en est rendu compte aussi.
C'est un impact, absolument. Alors, en faisant, tu vois, l'ensemble de ces actions, on est passé, quand on a commencé à interagir sur les réseaux sociaux, de 80% de commentaires négatifs ou neutres. On disait on parle beaucoup de principes de suspicion, 80% négatifs ou neutres, à 60% de positifs et neutres. Donc c'est un marqueur extrême. Alors c'est encore loin d'être parfait. Et puis il y a beaucoup de neutres, hein, parce que dans les systèmes de veille de réputation de marque, quand le logiciel il lit incroyablement dégueulasse, il sait pas dire si c'est bon ou si c'est pas bien. Donc oui. Il dit neutre.
C'est l'influence, non? Parce que moi je travaille.
Voilà, il y en a plusieurs sur le marché, effectivement.
Oui, parce que j'ai travaillé.
Donc de 80% quand même de négatif à neutre à 60% de positif et neutre, c'est la succession en fait des actions qu'on a faites, le Nutri-Score, les viandes, l'origine des viandes, et puis les innovations qui font que les gens se disent tiens cette boîte.
Elle essaie d'évoluer.
Un peu différente des autres, elle bouge. Exactement. Voilà.
Est-ce que tu aurais des choses à ajouter?
En fait, moi, ce mouvement-là qu'on a initié, que j'ai initié chez Le Sueur, qui s'est produit chez Fleury Michon, je pense que c'est quelque chose qui doit devenir, qui doit irriguer l'ensemble du marketing de toutes les entreprises. Parce que c'est hyper réjouissant. Ça marche beaucoup mieux que si on fait les trucs d'avant. Et moi j'ai créé une plateforme en 2013 là pour justement raconter ça, c'est-à-dire il y a 57 cas d'entreprises qui ont pris les sujets de la RSE, qui l'ont mis au cœur du business et qui ont connu des succès économiques. En fait, il faudrait presque faire disparaître les directions RSE des entreprises.
Oui, parce ça que devrait être l'ADN de tout commun à tous les employés de l'entreprise.
C'est le bien commun, en fait. La RSE, c'est ce qui va conditionner notre survie sur la planète.
Parce que c'est la demande.
Donc ça peut pas être un truc à côté qui est rattaché à un directeur général ou à un autre, même si c'est sans doute ce qu'il fallait faire pour commencer. Aujourd'hui, ces sujets-là, ils doivent être au cœur de la stratégie, donc le marketing doit s'en emparer et l'ensemble de l'entreprise doit s'en emparer. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche. C'est que ça génère davantage d'attachement aux marques, ça engage les consommateurs et ça permet de se donner des moyens pour aller plus vite et pour aller plus loin. Donc je pense que il faut qu'on généralise ce sujet et je serais très heureux d'en parler avec tous ceux qui le souhaitent.
Ben écoute, moi j'étais ravi de t'avoir dans l'empreinte. J'ai appris énormément de choses. J'aurais dû prendre un calepin et noter tout ça. Et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Podinstall et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants que David. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.